L'émission sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans LEM, l'émission quotidienne de Transistor, anciennement Radio Évasion, en direct à midi, en rediffusion à 18h. Si on s'appelle Transistor, c'est notamment en référence à la transition écologique, un sujet qui nous tient à cœur, vous le savez, un sujet auquel de nombreuses personnes réfléchissent et agissent, heureusement. Par exemple, il y a les citoyennes et citoyens du climat. C'est une appellation qui a été lancée par l'ADEME et localement, c'est l'association Énergence qui porte les citoyennes et citoyens du climat. On reçoit régulièrement dans l'EM les citoyennes et citoyens du climat de la communauté de communes de Presqu'île de Crozon et de l'Aulne-Maritime. Aussi, c'est toujours un sujet en particulier et aujourd'hui, ce sera le sujet de l'eau. Car la communauté de communes vient justement de lancer une consultation pour le plan de prévention eau et assainissement. Elle est disponible sur le site internet de la Comcom. Elle est ouverte jusqu'au 15 janvier, donc n'hésitez pas à y aller. Pour en discuter aujourd'hui, ils sont quatre. Alors, il y a Céline Marzin, Hervé Gumez, Ulrich Barrault et Joël Guiriec. Bonjour à tous les quatre.
Bonjour. Bonjour.
Alors, je ne sais pas qui va commencer, car la première question est vaste. La Comcom a une chargée de mission eau depuis 4 mois, qui a déjà bien travaillé et que vous avez rencontrée. Elle s'appelle Elodie Kerr. Qu'est-ce qu'elle vous a dit exactement,
Ulrich? Elle nous a présenté à peu près ce qu'on peut lire dans la notice de concept pour le plan de prévention d'eau et assainissement. Et c'est une bonne base pour la consultation. Et il faut dire, c'est un bon travail qui a été fait.
Oui, c'est ça. On va saluer ce travail déjà.
Ouais.
Ok, mais alors là, on va partir du principe que les gens n'ont absolument pas lu la notice qui n'est en ligne que depuis 3 jours, hein, ou 2 jours. Donc, qu'est-ce qu'il y a dedans?
Aujourd'hui, si on va, et récemment, ça pleut beaucoup. Alors, on sait que les nappes phréatiques ils sont à peu près rétablies. Mais malheureusement, ici, dans notre région, ça ne nous sert pas grand-chose pour l'été, parce qu'on dépend sur les eaux à la surface.
Oui.
Parce qu'on n'a pas beaucoup de sol qui peut stocker beaucoup de l'eau.
On n'a pas de réserve en profondeur, on
non.
va dire.
Mmh.
On importe plus de 40% de notre eau d'autres territoires.
Ah oui, donc même nos rivières ne suffisent pas. Voilà. Parce qu'on les capte, en fait, c'est ça. En l'occurrence, pour notre territoire, c'est surtout l'Aulne, hein, c'est ça, qui nous sert de réservoir, entre guillemets.
Et l'Odé.
Ouais.
Et effectivement, on a 2 captages sur le territoire, un à la Berre et un à Argol. Et il est envisagé un troisième qui pourrait être réétabli sur Argol. Mais effectivement, c'est 40% de notre eau qui est importée, ce qui correspond plus ou moins à l'augmentation de 45% d'usage de l'eau durant la période d'été touristique.
Et en plus, bon, on voit que pendant la sécheresse de 2022, il y a eu des communes, alors c'était peut-être pas dans notre territoire, mais enfin pas loin quand même, qui étaient en rupture d'approvisionnement, hein, concrètement.
Il nous restait une semaine d'eau au robinet mi-septembre 2022.
Oui, Hervé.
Oui, la ressource, elle n'est pas inépuisable. Hein. Il faut imaginer qu'aujourd'hui, on consomme de l'eau, on rentre chez soi, on ouvre le robinet, il y a de l'eau qui coule. Et ça, c'est pas ça, dans les années qui vont venir, ça ne va pas être systématique. Aujourd'hui, en Occitanie, il y a encore 43 communes qui n'ont pas eu d'eau au mois de juin et qui ont été en limite d'approvisionnement d'eau au mois de septembre. Mmh.
Mais c'est vrai que quand il pleut autant, on a un peu de mal à se dire ça, mais il faut se projeter, n'est-ce pas?
La situation qu'on a aujourd'hui, si on porte notre regard un petit peu plus loin, c'est vrai que ça fait des semaines, voire des mois qu'il pleut depuis juillet, à l'exception de septembre. Et en parallèle, en Amazonie, El Niño sévit et il supporte actuellement une sécheresse sévère. Il faut savoir que le cycle de l'eau sur la planète est un cycle fermé. Donc ce qui ne tombe pas en Amazonie, il nous tombe un peu sur la tête en ce moment.
El Niño qui est un phénomène climatique récurrent qui revient de manière pas tout à fait régulière d'ailleurs, mais qui crée des perturbations, on va dire. Voilà.
Qui est une des conséquences du changement climatique.
Bah ça, il existait avant le changement climatique, le Niño. Il y en aura peut-être plus à cause du changement climatique. Voilà. Et donc en Presqu'île de Crozon et en Aulne-de-Maritime, nous avons donc conscience de cela. Nous avons donc cette chargée de mission, Elodie Kerr, qui s'est occupée pendant 4 mois d'un diagnostic déjà. Enfin, quel était son diagnostic?
Alors, il y a eu un diagnostic qui a été très, très finement réalisé, et ça, il faut mettre l'accent là-dessus, sur les différents consommateurs. sur également les fuites. Alors, si on a deux chiffres éventuellement à citer du rapport que vous allez trouver d'ailleurs dans la consultation citoyenne, on peut voir qu'il y a à peu près entre 25% de l'eau potable produite qui part en fuite sur le réseau.
Ah oui.
Donc ça, c'est une moyenne nationale. Mais
oui, c'est un classique.
C'est un classique. Néanmoins, c'est important.
C'est pas une raison pour ne rien faire.
Et puis le deuxième chiffre qui m'a paru étonnant de prime abord, c'est que le premier consommateur d'eau sur la presqu'île sont les militaires. Tout simplement parce qu'il y a une ville de 5000 personnes qui, journellement, travaillent sur la presqu'île et qui consomment de l'eau.
C'est la base de l'Envéoc, en fait, c'est ça ?
La base de l'Envéoc, l'île Longue, tous les militaires.
Ah oui, donc c'est pas les touristes, alors, finalement ?
Non. Et le chiffre est relativement important, puisque c'est 19% de la population locale qui ce sont les militaires qui consomment l'eau. Et c'est de l'eau qui est majoritairement sanitaire.
Mmh. Ah oui. C'est pas pour boire, quoi, c'est ça.
Il y a peu, voilà, c'est ça.
Ouais, Céline, ouais.
C'est 19% sur la partie professionnelle. En fait, grosso modo, 54% de l'eau est consommée par les habitants et 46% par les professionnels, et sur lesquels, sur la partie professionnelle, les deux bases militaires représentent 19%.
Oui, d'accord. Et là, la consultation, elle concerne essentiellement la population, enfin les habitantes et habitants lambda, c'est ça, hein,
Ils ont fait un constat sur tous les aspects, en fait, que ce soit pour les habitants ou pour les professionnels, ce qui permet après, effectivement, de faire des propositions et sur lesquelles ils travaillent aujourd'hui. Et il y a d'ailleurs la consultation qui est en ligne sur le site de la communauté de communes. Tout à chacun peut... lire les propositions qui sont faites et donner son avis.
Voilà, jusqu'au 15 janvier. On le remettra sur le site de la radio, oui, Hervé ?
Oui, c'est bien fait, parce qu'il y a un certain nombre de fiches actions qui sont clairement établies, qui sont très très lisibles. Hein,
c'est pas trop technique,
ouais. On n'est pas forcé être un spécialiste de l'eau ou de la politique globale pour arriver à les lire. Et on peut se dire, ça c'est bien, ça c'est moins bien, ça c'est peut-être un peu inutile, et donner son avis est, je pense, important.
Mmh. Alors, le plan d'action, quel est-il ? Donc, c'est un plan qui concerne l'eau et l'assainissement. Il faut peut-être rappeler pourquoi les deux sujets sont liés, éventuellement. Ça peut être utile. Enfin, l'assainissement, c'est quoi ? C'est le nettoyage de l'eau. Enfin, c'est des eaux usées, c'est ça ?
Déjà, parce qu'aujourd'hui, on jette peut-être des eaux assez précieuses juste dans la mer, hein, les eaux grises qui sortent des stations d'épuration, qu'on peut aussi utiliser pour certaines choses. Parce que c'est vraiment dommage d'utiliser de l'eau potable pour nettoyer les voiries,
oui,
par exemple.
Par exemple, oui.
Mm-hmm. Là, l'eau qui sort de la station d'épuration, c'est assez bon.
Eh ouais, elle pourrait être presque rebue, en fait. Il y a des communes qui réutilisent cette eau qui sort de la station d'épuration pour la remettre dans le circuit. Ça existe. Hein.
Ouais. Et oui, c'est...
Ouais, Céline, ouais.
Et donc c'est les études que la Comcom vont commence à mener, effectivement, pour voir comment réutiliser les eaux usées qui sortent en bout de filtration, notamment en agriculture ou dans les jardins. Il faut savoir qu'en fait une majorité de l'eau potable qu'on consomme est utilisée dans les toilettes. Mmh. C'est à peu près 40% pour un ménage. Et l'eau, c'est quoi dans les toilettes, en fait ? C'est juste un vecteur pour transporter nos déchets d'humains.
Mmh. On en parlera, ouais, tout à l'heure. Mais là, on va revenir au plan, parce que je crois que quels sont les volets du plan ? Qu'est-ce qui est présenté comme action concrète qui pourrait être mise en place sur la communauté de communes de Presqu'île de Crozon et Aulne-Maritime ? Donc...
Alors, par exemple, pour la réutilisation des eaux grises, c'est un cible chiffré de 10%, augmenté de 10%. Les utilisateurs des eaux grises.
Donc celles qui sortent de la station d'épuration,
oui,
c'est ça,
oui. Mmh. Et de réduire la consommation aussi des 10%.
D'accord. Et donc réutilisables, non, ben, en quoi ? En agriculture.
Les stations de lavage aussi des véhicules. Les stations de lavage des véhicules également peuvent utiliser cette eau-là. Il n'y a pas besoin d'eau potable pour nettoyer des véhicules.
Donc ça, c'est une proposition. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme proposition intéressante dans ce plan ?
Alors, il y a des propositions qui sont faites à orientation des familles, entre autres de limiter l'utilisation de l'eau ou de la réduire, par diffusion, entre autres, de mousseurs à mettre sur les robinets, des petites, et puis de prendre conscience que les toilettes, c'est pas la peine de les tirer 15 fois par jour. Simplement, y compris lorsqu'on a des enfants à la maison, c'est une prise de conscience globale. Donc ça, il y a une fiche qui est clairement établie là-dessus pour faire de la prise de conscience que l'eau est précieuse et qu'il faut réduire son utilisation.
Ouais, ça c'est de l'éducation de base des citoyennes et citoyens, comme pour le compost, c'est ça en fait.
Et aussi concrètement, de pousser pour les nouvelles constructions à poser des cuves de récupération d'eau pour lesquelles une subvention pourrait exister. Et elle existe déjà pour des cuves qui sont limitées à 500 litres ou 1000 litres. Et ils vont avancer plus avant là-dessus pour éventuellement voir des cuves enterrées aussi, et d'inciter à ce que cette eau puisse être utilisée pour notamment les toilettes, mais aussi laver le linge, parce que là aussi, pour laver le linge, on n'a pas besoin d'utiliser de l'eau potable.
Parce que ça, les récupérateurs d'eau, il y a déjà une subvention, non,
qui est mise en place, ouais. Sur les cuves, oui, il y a une subvention de la communauté de communes. Ouais.
Et qu'est-ce qu'il faut faire, en gros, c'est pour...
Il faut les acheter déjà sur le secteur de la communauté de communes, c'est-à-dire les entreprises qui en vendent sur la communauté de communes. Si on achète à l'extérieur, on ne peut pas être subventionné.
Et on a une subvention de combien? Je ne sais même pas combien ça coûte,
pas
à dire
ça,
vrai.
En tête.
Je crois que c'est 25 euros pour une cuve de 500 litres, et on a droit à 2 tickets si on achète une cuve de 1000 litres.
Et ça coûte assez cher, quand même, ces cuves Non, ça dépend des modèles.
Il y a des cuves, des conteneurs ICB qui contiennent 1000 litres, ils coûtent 150 euros.
Bon, d'accord, ça fait une aide quand même. D'autres actions que vous avez remarquées dans ce plan d'action, dans cette consultation, qui vous paraissent intéressantes?
On va aussi envisager de faire un programme pilote, de mettre des compteurs qui sont lisibles à la distance.
Oui.
Genre Linky pour l'électricité. Alors j'espère que les gens vont pas râler comme pour le Linky. Mais comme ça va donner plus de l'information aux gens. Parce que normalement, le compteur, il est au bout du jardin. Alors on ne regarde pas
chaque matin,
hein, ou très très rarement. Mais si on va en direct, qu'il a la consommation, en plus, ça ne coûte pas trop cher. C'est un petit émetteur qui se pose sur le compteur actuel. Il ne faut pas trop en changer.
Oui, on n'a pas besoin de remplacer tout le compteur. Oui, oui. C'est une bonne chose. Oui.
Et là, on peut voir en direct, par exemple, pour détecter des fuites. C'est super. Parce qu'aujourd'hui,
des fuites chez soi, dans sa maison.
Parce qu'aujourd'hui, il y a un service de service de l'eau. Si on augmente sa consommation d'une année à l'autre, plus que 25%, ou une seuil comme ça, on reçoit une lettre spéciale pour dire, attention, on a remarqué, peut-être il faut vérifier s'il n'y a pas de fuite. C'est très bon, mais c'est après.
Mais oui,
trop tard. C'est pratiquement un an après qu'on a perdu l'eau. Mais si on a cette information en direct, c'est beaucoup plus facile de réagir.
Mm-hmm. En effet.
Il y a également un thème qui est de faire une recherche de fuite systématique sur le réseau. Et donc de reposer également des compteurs, mais ce ne sont pas des compteurs individuels, ce sont des compteurs collectifs finalement, au niveau des différentes têtes de réseau, pour voir s'il y a augmentation ou diminution augmentation rapide du débit qui indiquerait une fuite assez massive.
Ouais, parce que un quart de l'eau potable de la Comcom, enfin sans doute, qui s'en va c'est à cause de quoi, comment ça se fait?
Tout simplement, le réseau, il date d'après-guerre, majoritairement, donc il a vieilli, tout simplement.
C'est des tuyaux en quoi?
Ce sont des tuyaux en fonte qui avaient été posés à l'époque. Donc les tuyaux en fonte, ils ont vieilli, et puis toute la robinetterie qui est installée tout au long du réseau est également vieillissante.
Ouais.
Donc il y a des fuites qui se produisent un peu partout.
Les joints qui sont usés, les fissures dans les tuyaux, c'est ça?
C'est exactement ça.
Ouais.
Les petits mouvements de terrain qui font que la canalisation se déboîte, il y a pas mal de fuites qui sont dues à l'âge tout simplement du réseau.
Or, après, ça coûte cher de refaire tout un réseau. Donc, c'est ça. Vaut mieux essayer de détecter à quels endroits.
Voilà, c'est ça. C'est une chose de savoir qu'on perd beaucoup d'eau, mais il faut savoir où se passent les fuites. Et là, il faut des compteurs sectoriels, effectivement, pour déterminer les lieux déjà où où ont lieu les fuites.
Et sur l'ensemble de la communauté commune, idéalement, il faudrait combien de compteurs pour, comme ça, pour essayer de pallier le problème à peu près, quoi.
Bah, le plus possible, mais je dirais avec une bonne dizaine, voire centaine, ça facilite le problème. Et en plus, c'est pas très compliqué de monter des grands compteurs dans des tuyaux principaux. Hein.
Alors ensuite, donc ça c'est le plan d'action qui est proposé. Est-ce qu'il y a des choses qui manquent dans ce plan d'action ? Et je crois que oui. Enfin, des axes que vous aimeriez dans vos rêves les plus fous qui soient proposés.
Alors, Céline, c'est sur l'aspect assainissement, effectivement, d'aller un petit peu plus loin sur le côté des toilettes sans eau. Parce qu'on sait que dans le cadre de la ZAN, donc de la zéro artificialisation nette, qui prendra effet dans une dizaine d'années, beaucoup de constructions vont sortir d'ici là. Ça a été acté par la communauté de communes sur toutes les communes du territoire au printemps dernier.
Des nouveaux logements, plutôt des maisons
Ça, je ne sais pas, mais par contre, on sait que notre système d'assainissement est déjà engorgé aujourd'hui, même s'il y a des remplacements de tuyaux qui sont faits. Mais en gros, pour le nombre de mètres carrés qui ont été actés à venir à construire, c'est à peu près 10 000 habitants supplémentaires dans les 20-30 ans à venir. Et si on met tout le monde avec des toilettes à eau, ça risque d'être un petit peu compliqué pour le territoire que nous sommes, parce que ce territoire-là, par contre, lui, il reste le même. Et donc, d'envisager une incitation aux toilettes sèches, il en existe plusieurs systèmes, et donc d'envisager aussi un assainissement plus local, c'est-à-dire à l'échelle de l'habitat ou à l'échelle de quelques habitats. Et là aussi, des expérimentations sont en cours, notamment... des phytoépurations avec du broyat.
Alors ça, c'est phytoépuration, il faut expliquer ce que c'est pour les... Donc là, c'est en fait, ces eaux usées ne vont plus à la station d'épuration, mais dans un système ou une station d'épuration personnelle, c'est ça ? Enfin, comment ça se passe ?
Oui, effectivement, si on a un petit bout de terrain devant chez soi, donc en fait, on fait un trou, il y a deux bassins de rétention et de filtrage, et ensuite une troisième voie qui part au naturel. Et dans ces bassins, la filtration se fait aussi bien avec des éléments minéraux, comme des graviers, en fait, qui font que le flux n'est pas trop rapide et reste à un endroit, ou avec de la pouzzolane, en fait.
C'est quoi la pouzzolane ?
La pouzzolane, c'est une roche volcanique qui a des aspérités et qui permet de retenir les bactéries. Et ensuite, on plante des végétaux aquatiques dans ces bassins, et dont les racines et les mycorhizes mangent les bactéries de nos déchets humains. Et ensuite, l'eau est vraiment filtrée, comme le fait mécaniquement une station d'épuration, en station d'épuration avec des membranes. Et ici, ce sont les racines des plantes qui font ça. Donc, c'est des roseaux, des iris, de la massette, qui sont aussi des plantes qui poussent très bien chez nous, naturellement, en fait.
Donc ça, c'est pour une maison avec jardin. Donc c'est vrai que la majorité des logements sur notre territoire, ça reste des maisons individuelles, c'est ça ?
Oui.
Et c'est le problème un peu, c'est qu'on a des pour tout ce qui est cuve, enfin tout ce qui est assainissement qu'on dit non collectif, ça, souvent il y a des fuites de cuves, enfin ça pollue en fait déjà.
Ce ne sont pas ces mêmes systèmes en fait, et effectivement l'idée pour la Comcom aussi, c'est d'essayer que ces systèmes-là soient en conformité, et pourquoi pas envisager de le faire avec des systèmes plus naturels. La commune de Saint-Nic, alors pas très loin de chez nous, a implanté une phytoépuration collective il y a 5 ou 6 ans. Je sais qu'il y a un autre territoire en Bretagne, je crois, dans l'Ille-et-Vilaine, qui l'a fait à l'échelle d'une commune pour plus de 10 000 habitants.
Donc station d'épuration naturelle.
Phytoépuration naturelle à base de plantes. Et on peut le faire chez nous aussi. Il faut 15 mètres carrés pour une famille de 4 personnes.
Et sinon, alors ça c'est pour de l'épuration de l'eau, mais sinon on peut aussi donc choisir les toilettes sèches. Alors Joël va nous essayer de nous convaincre, parce que c'est un sujet tabou, les toilettes sèches, n'est-ce pas ?
C'est vrai que culturellement on a un petit peu de mal à parler de ça, et puis encore plus à passer aux toilettes sèches. Chez nous on est passé depuis maintenant presque 2 ans, donc c'est du concret. Alors il faut savoir que depuis 2019, les toilettes sèches sont autorisées en une habitation particulière. À partir de là, le principe, c'est donc d'utiliser un compost pour composter donc les déjections, ainsi mélanger donc à de la sciure.
Il faut un compost qui va durer longtemps, c'est
alors,
ça.
Alors, c'est un petit peu un problème, oui, puisqu'il faut qu'on considère que... Enfin, la loi, en 2019, a dit qu'il fallait 2 ans
ah oui.
à partir du dernier apport sur le compost pour que toutes les bactéries néfastes soient éliminées.
Oui, pour pas qu'on attrape le choléra. Ou,
donc bref. Déjà, il faut au moins 2 composts, voilà. puisqu'on arrête et on en recommence un autre. Alors, par expérience, donc là, moi, ça fait 2 ans, effectivement, un composteur de 1 mètre cube peut durer à peu près 2 ans pour un couple.
Bon, en effet, c'est tout à fait jouable.
Donc, il faut 2 composteurs de 1 mètre cube, du coup. Alors, la loi dit aussi qu'on ne doit pas entraîner de nuisances olfactives pour les voisins.
Eh oui. Bien sûr.
Voilà.
Donc, composteur fermé, entre guillemets. Enfin,
il est fermé
relativement
en bois,
fermé, oui, c'est
en
ça.
Bois,
oui.
Mais il est quand même fermé avec un couvercle. Effectivement, il ne faut pas non plus qu'il y ait trop d'eau aller dedans pour pas qu'il y
mais
ait des écoulements de
d'accord.
matière mm-hmm. qui, effectivement, aillent jusque chez les voisins, par exemple. Quoi. Par expérience, donc, moi, j'utilise une sciure relativement avec des copeaux qui a également de la poussière. Donc, ça désodorise. Au niveau odeur, il n'y a aucun souci. Vraiment. Toutes les personnes qui viennent chez nous et nous-mêmes, c'est vrai que ce n'est pas une habitude, simplement. Personne ne se plaint de l'odeur dans nos toilettes. Quoi.
Bon, et donc c'est faisable, ça ne fait pas trop de manipulation.
Ça ne fait pas trop de manipulation. Il faut vider donc, le récipient tous les 3 jours à peu près, 3-4 jours. Et donc, après, il y a l'utilisation aussi de ce compost-là. Pour le moment, il déconseille encore de mettre ce compost-là sur des légumes, par exemple, de l'utiliser plutôt pour des fleurs ou de l'ornemental, oui, effectivement.
Et vous avez calculé combien d'eau vous avez économisé à vous deux, alors ?
Oui, donc nous, on était à 40 mètres cubes d'eau par an pour un couple. Et là, on est passé à 24.
Ah, voilà.
Donc 16 000 litres d'eau sur un an.
Ouais. Et ça fait combien, en fait, en chiffres de... En euros, ça fait combien d'économiser, vous avez calculé, non ?
Bah, c'est-à-dire que c'est le prix de l'eau, en fait, c'est un forfait. Ouais. Il y a un forfait.
Oui. C'est le problème, donc, c'est qu'on n'est pas tellement incité,
On n'est pas tellement incité à utiliser ces systèmes-là.
Alors, un jour, on vous promet un reportage, c'est Céline qui a 3 mètres cubes d'eau par an, c'est ça, de consommation ?
Mais oui, mais par contre, dans le plan, je reviens du coup à ce que dit Joël, dans le plan de la communauté de communes, l'incitation à moins consommer d'eau viendra dans les années à venir. C'est aussi au plan national, hein,
oui, bien sûr.
Sur le prix de l'eau en fonction de la quantité d'eau qu'on va consommer. C'est des choses qui vont arriver dans les 2 années à venir. Aujourd'hui, moi, je ne suis pas forcément passée aux toilettes sèches dans la maison où je suis, mais par contre, je ne fais pas pipi dans les toilettes.
Mais c'est ça aussi. Voilà. Des petits trucs très simples. Alors, il nous reste juste 3 minutes, 2 minutes 30 pour parler d'un volet professionnel qui nous intéresse beaucoup dans le Finistère, à savoir l'agriculture, qui est aussi consommatrice d'eau. Céline, un petit mot sur cette... parce qu'hier, à Mâlon, en fait, le CIVAM du Finistère, un partenaire en fait, de Radio Évasion, organisait une réunion là-dessus. Alors, qu'est-ce qui s'est dit, en gros, dans cette réunion ?
Ben effectivement, le constat est partout le même sur le fait que l'eau pourrait venir à manquer à certaines périodes. Et l'idée, effectivement, ce serait d'appliquer quelque chose qui s'est appelé l'hydrologie régénérative. Et en gros, c'est d'utiliser l'agroforesterie et la topologie des terres.
Donc le relief, c'est ça ?
Le relief, pour planter des arbres et faire que l'eau s'infiltre. Ça fait aussi partie du plan de la communauté de communes de déperméabiliser les endroits où c'est possible. C'est-à-dire que quand on met du goudron partout, effectivement, l'eau ne peut pas s'infiltrer. Et les systèmes de drainage font que, en fait, c'est dirigé vers des cours d'eau. Et quand il y a des gros orages et autres, c'est pour ça que les cours d'eau débordent, parce qu'en fait, on a modifié le cheminement naturel des eaux pour nos vies d'urbains, avec nos toilettes et autres.
Que normalement, l'eau, elle s'infiltre lentement dans le sol, elle y reste un certain temps, etc. etc.
Exactement. Donc la Comcom envisage aussi, est en train de faire une étude pour voir où il serait possible de désimperméabiliser pour éviter, avec les tuyaux, de ramener l'eau vers les cours d'eau qui peuvent déborder. Et aussi, en agriculture, pour éviter une irrigation artificielle, de pouvoir replanter des arbres un petit peu partout et aussi créer des bassins naturels de rétention d'eau pour les gros orages, puisqu'on a des
nappes phréatiques. Mais ce n'est pas des méga-bassines, on est d'accord.
Non, absolument pas. C'est vraiment des petits bassins naturels un petit peu partout. Comme des mares, tout un chacun peut le faire aussi dans son jardin, si on a un tout petit peu de pente, de faire une petite mare, un petit bassin.
Et c'est aussi pour les animaux, d'ailleurs, les amphibiens fossés, notamment.
Voilà. Et de faire des fossés aussi. Et certains territoires commencent à en parler, notamment de faire des plans territoriaux de régénération des cycles de l'eau qui pourraient être mis en œuvre et établis en même temps que les plans d'alimentation territoriaux.
Et oui.
Et donc, parce que le sujet de l'eau impacte aussi les rendements en agriculture et donc, du coup, notre alimentation. Et localement, il pourrait être intéressant de faire rejoindre ces de plans sur les territoires. Certains territoires en France commencent à le faire.
Bon, je pense qu'on fera une émission sur l'hydrologie, non, hydrogéologie.
Hydrologie régénérative.
Régénérative. Merci beaucoup à tous les quatre et vous reviendrez très bientôt, hein, les citoyens du climat, pour nous parler d'un autre sujet, je suppose.
Oui.
À bientôt.